Et merci d'avoir choisi Europe 1 et Midi.
C'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Je veux du fond du cœur vous dire merci.
Les larmes d'Agnès Buzyn, sa passation de pouvoir au ministère de la Santé, c'est officiel depuis hier. C'est elle qui va conduire la liste de La République En Marche au municipal à Paris. Dossier complet dès le début de ce journal.
Et oui, car cette démission n'est pas sans conséquence. Une campagne au pas de course. Agnès Buzyn arrivera-t-elle à convaincre en 4 semaines? En attendant, les personnels hospitaliers la voient comme une déserteuse.
On a un peu le sentiment qu'elle se moque de nous, quoi. Enfin, elle avait dit la semaine dernière qu'elle allait recevoir les hospitaliers après la manifestation. Puis en fait, 2 jours après, on apprend qu'elle démissionne.
Explication à suivre et nous inviterons l'urgentiste Patrick Peloux pour savoir aussi comment le nouveau ministre Olivier Véran doit gérer la crise du coronavirus.
Pendant ce temps, la France Insoumise a déposé plus de 23 000 amendements sur le projet de loi des retraites. Olivier Samain nous dira comment qu'on recommence tout à zéro.
Dans ce journal également, une nouvelle fois, des insultes racistes dans un stade de foot. Mais cette fois-ci, le joueur s'est fait retenir par ses coéquipiers pour ne pas quitter le match.
La France bouge, spéciale sécurité en vue des municipales. Je vous le disais, illustration dans ce journal au Mirail, quartier sensible de Toulouse.
45 000 Français ont l'an dernier choisi les Maldives comme destination de vacances. Enquête sur place 13 jours après l'attentat qui a fait 3 blessés. Et puis, un nouveau candidat de la France à l'Eurovision. Il s'appelle Tom Leb. Nous ferons les présentations en fin de journal. La météo, Céline Dacosta, temps encore perturbé
oui,
aujourd'hui.
Oui, des averses pour l'est du pays. Nouvelle petite perturbation près des côtes de la Manche.
C'est
entre
dû
les
à Tom
deux.
Leb, non?
Sûrement,
oui.
C'est assez calme avec des éclaircies. Mais le vent souffle encore cet après-midi. 70 km à l'heure dans les terres, 90 km à l'heure près des côtes.
Merci Céline Dacosta. On vous retrouve à 12h30 pour une météo complète.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est en larmes qu'Agnès Buzyn a donc quitté le ministère de la Santé tout à l'heure.
Oui, et celle qui depuis hier remplace Benjamin Griveaux en tant que tête de liste La République En Marche au municipal à Paris n'a pas pu retenir son émotion lors de cette passation de pouvoir avec son successeur Olivier Véran. Hélène Terzian, vous avez assisté à ce moment.
Effectivement, c'était une passation empreinte de beaucoup d'émotions qui s'est déroulée dans le hall du ministère de la Santé. C'est là face à la presse et surtout à tous ses désormais anciens collaborateurs qu'Agnès Buzyn a été longuement applaudie dès son arrivée. Dans son discours d'une dizaine de minutes, elle n'a pas pu retenir ses larmes.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. À tous ceux qui travaillent dans ce très beau ministère, je veux du fond du cœur vous dire merci. À chaque instant, dans les moments difficiles, j'ai pu compter sur votre très haut niveau de compétence, sur un engagement nuit et jour. Tu as de la chance, Olivier. Tu as de la chance.
Agnès Buzyn, très applaudie, qui, vous l'entendez, s'est adressée à son successeur, Olivier Véran, qu'elle a tutoyé, un confrère qu'elle connaît bien, a-t-elle dit, en qui elle a une confiance absolue. Le nouveau ministre de la Santé a lui ensuite très vite montré qu'il voulait se mettre au travail, notamment face à la crise du coronavirus, avant de saluer le bilan d'Agnès Buzyn.
Dès à présent, je me mets à la tâche, au service de la même ambition. Vous avez posé les fondements de l'État-providence du XXIe siècle, et cet État social moderne a eu besoin de votre vision et de votre courage pour que s'écrivent ses premières lignes. Nul ne peut prédire l'histoire, mais elle retiendra, j'en suis sûr, que c'est vous, Agnès Buzyn, qui avez amorcé ce changement sans précédent, alors que notre pays traversait une crise sociale inédite.
Agnès Buzyn a ensuite quitté le ministère, saluant une dernière fois ses collaborateurs, les serrant parfois dans les bras avant de glisser. Il me reste 15 minutes pour me remettre de mes émotions et filer à mon QG de campagne.
Merci Hélène Terzian.
Adrien Becht, les larmes, il va falloir les sécher très vite car on repart à zéro pour la campagne de La République En Marche.
Eh oui, quasiment. Agnès Buzyn est obligée de plonger dans le grand bain. Hélène disait qu'elle est à son QG de campagne. En effet, elle rencontre son équipe de campagne aujourd'hui, ses têtes de liste d'arrondissement. On parle aussi d'un autre déplacement d'Agnès Buzyn dans la journée. Elle devra aussi se prononcer pour savoir si elle te sera tête de liste dans un arrondissement. Alors on évoque le 17e, le 15e, le 6e. Ça, ce sera en principe défini ce soir. À la tête du parti présidentiel, on l'assure, c'est par sa marque qu'Agnès Buzyn va s'imposer. Autrement dit, elle pourra mettre sa patte dans le programme légué par Benjamin Griveaux. Quid du Central Park à la place de la gare de l'Est? Quid des 100 000 euros de prêts pour les Parisiens qui veulent accéder accéder à la propriété. Autant de points sur lesquels Agnès Buzyn va devoir se positionner. On sait qu'elle travaille déjà sur des propositions et il y a urgence, à peine 4 semaines avant les élections municipales. Il y a aussi dans cette campagne des sondages compliqués, des candidats qu'elle n'a pas choisis. Et puis toujours quand même le dissident Cédric Villani. Autant de points durs qui font dire à un conseiller ministériel qu'Agnès Buzyn était en pleine ascension. Elle risque désormais de se couper les ailes en allant perdre une élection.
Et puis un petit détail qui a son importance, hein, Adrien. On a raconté ensemble les membres du gouvernement. Cette parité promesse de campagne d'Emmanuel Macron, bah, avec le remplacement par Olivier Véran, on n'y est plus là.
Ah oui, alors on n'y était déjà plus avec l'entrée au gouvernement d'un secrétaire d'État au transport qui s'appelle Jean-Baptiste Djebbari, c'était en septembre, et on a fait les comptes donc ensemble, Pierre, avec l'arrivée d'Olivier Véran à la santé, on compte désormais 20 hommes au gouvernement pour 17 femmes, et donc on s'en éloigne de plus en plus.
Merci Adrien Beck. En attendant qu'Olivier Véran reprenne le gouvernail, donc les personnels hospitaliers estiment que leur situation n'est toujours pas réglée.
Et justement, écoutez le désarroi de Blandine Chauvel. Elle est assistante sociale à la Pitié-Salpêtrière.
On a un peu le sentiment qu'elle se moque de nous, quoi. Enfin, elle avait dit la semaine dernière qu'elle allait recevoir les hospitaliers après la manifestation, puis en fait 2 jours après, on apprend qu'elle démissionne. Elle laisse un peu le chantier. Bon, de toute façon, nous, ce qui nous concerne vraiment, c'est les conditions de travail à l'hôpital qui se sont pas améliorées depuis des mois. En fait, hein, elle avait fait des annonces. Pour l'instant, nous, on a rien vu. Hein. Il y a toujours du manque de personnel dans les services. On est toujours en grand manque. Il y a toujours des salaires très bas. On constate que les trucs se sont pas améliorés du tout. Il n'y a toujours pas de matériel aussi. C'est toujours la crise pour avoir du matériel. À la Pitié, il manquait des masques dans certains services pendant l'épidémie de coronavirus. Comment vous dire que les ambitions électorales de Madame Buzyn...
Voilà, donc le désarroi et aussi un peu de cynisme, hein, de Blandine Chauvel, assistante sociale à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Patrick Peloux.
Bonjour.
Médecin urgentiste. Bonjour. Avec vous, on va parler surtout de cet épineux dossier du coronavirus dont hérite Olivier Véran. Comment est-ce que, selon vous, il doit gérer la situation ?
D'abord, il ne doit pas perdre de temps. Si j'ai bien compris, il y a une réunion qui est en train de se préparer en Chine. Il faut absolument que la France y soit représentée.
Donc il doit y aller.
Il ne doit pas perdre de temps. Il doit y aller ou, à mon avis, en déléguer quelqu'un, que ce soit le délégué, peut-être le directeur général de la santé, vous voyez, mais quelqu'un de premier ordre. Deuxièmement, il faut continuer à mobiliser les équipes et à anticiper le plus possible ce qui risque de s'arriver si la pandémie continue à se développer. Pour l'instant, on a du bol parce qu'en fait, le virus n'est pas aussi virulent que ce qui est dit. Alors évidemment, vous annoncez régulièrement des chiffres, mais... La Chine n'est pas comparable à la France, hein, 1,5 milliard d'habitants.
Oui, population, d'accord. Bien sûr.
Voilà, il faut quand même se calmer. La grippe saisonnière tue, les accidents du travail tuent tous les jours, hein, mais pas... pour l'instant, on a eu un décès qui est un cas importé d'un homme chinois qui était déjà très malade, donc... faut savoir raison garder là-dessus, quoi.
Mais les hôpitaux ne sont pas forcément prêts pour réagir en cas de pandémie, s'il y en a une.
Si vous poussez dans un scénario catastrophe qui ferait, mais on n'en est pas là, parce qu'en plus de ça, je tiens juste à vous dire que le virus se développe en période de froid. Or, nous allons vers le printemps et quelque part, le réchauffement climatique fait que d'un coup, nous allons vers de plus fortes chaleurs, donc le virus ne va pas supporter. Bon, je mets ça de côté. Maintenant, et votre question d'un scénario catastrophe qui ferait que d'un coup, on serait débordé avec des afflux massifs, ça c'est sûr que ça poserait des questions absolument énormes au système de santé français, parce que comme l'a rappelé l'assistante sociale de la Pitié, là, on est à sec, on est à genoux, et nous sommes dans une crise hospitalière absolument majeure, et vraiment qui remet en cause les fondamentaux du socle social que représente l'hôpital public en France. Et ça reprend donc les propos que vient de dire et que vous avez retransmis du ministre de la Santé, disant que nous sommes dans une crise sociale. Enfin, il y a un ministre de la Santé, j'ai envie de dire, il vient de prendre ses... Nous, on sait qu'il y a une crise sociale monstrueuse en France.
Ouais. Patrick Peloux, l'OMS dont vous avez parlé, avertit qu'il est impossible de prévoir quelle direction l'épidémie va prendre. Moi, je veux bien, mais en attendant, il faut quand même se préparer. Elisabeth le disait.
Mais totalement. C'est pour ça que, si vous voulez, cette espèce de remaniement ministériel en enlevant quelque part... on est d'accord ou pas, mais c'était le commandant du navire en pleine tempête. Mmh. On enlève Agnès Buzyn du bateau La Santé et la Solidarité en France. Mais là, voilà, de toute façon, le ministre va prendre un peu de temps pour s'installer. Pour
mais justement,
mettre en place
il ne faut pas perdre de temps, vous avez dit.
Mais non, il ne faut pas perdre de temps, ce qui fait que là, alors là, pour le coup, cette espèce de corneau là qui a fait sa vidéo totalement débile qui a manipulé le gouvernement, ben voilà. là on est dans une crise sociale là.
Ça c'était pour l'édito. Merci Patrick Pelot d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi. Je rappelle quelques faits, deux événements majeurs, notamment le marathon de Tokyo le 1er mars et le salon automobile de Pékin qui est gigantesque, qui devait se tenir en avril, sont tous les deux annulés ou reportés.
Autre dossier que récupère le nouveau ministre de la Santé, celui des retraites. Olivier Véran le connaît bien. Il était encore hier soir l'un des rapporteurs du projet de loi instituant un système universel. Projet qui arrive cet après-midi devant l'Assemblée.
Oui, sauf que c'est pas gagné quand on sait que d'une part, il y a 41 000 amendements déposés et que d'autre part, la commission spéciale sur ce sujet n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses travaux. Si je comprends bien, Olivier Samain, il faut tout recommencer à zéro.
Ben oui, les députés vont devoir reprendre les 65 articles du projet de loi dans leur version initiale. C'est comme si le travail mené par la commission spéciale n'avait servi à rien, ou presque rien, puisque les amendements adoptés par cette commission, il y en a eu 21 au total, vont être représentés dans l'hémicycle et on peut raisonnablement parier qu'ils seront adoptés. Mais c'est peu au regard de tout ce qui reste à examiner. On ne parle pas là des 41 000 amendements qui vont évidemment surencombrer les débats. Rien que sur le fond du texte, il y aura des crispations, y compris dans les rangs de la majorité, notamment sur les points laissés en blanc que le gouvernement veut traiter plus tard par ordonnance, sur l'équilibre du futur régime universel, sachant que la conférence de financement n'aura pas rendu ses conclusions à la date du vote, ou encore sur des sujets pour lesquels le gouvernement n'a pas encore trouvé de point d'atterrissage, la pénibilité notamment. En tout cas, des consignes ont été données aux députés En Marche, mollo sur les amendements et surtout aucun amendement qui alourdirait le coût de la réforme.
Merci Olivier Samain. Mollo sur les amendements, je ne sais pas ce qu'on appelle mollo, mais 41 000, je vous le disais au total, 37 000 des seuls groupes de gauche et 23 147 de la seule France insoumise.
La députée Clémentine Autain a un objectif bien précis.
Ne pas rendre la tâche facile au gouvernement, et nous avons donc une méthode qui consiste en effet à embouteiller le débat sur le projet de loi de telle sorte qu'il soit repoussé et que nous puissions obtenir gain de cause, c'est-à-dire le retrait ou un référendum comme nous le demandons cet après-midi par la motion référendaire. Nous allons utiliser en fait tous les leviers dont nous disposons d'un point de vue institutionnel pour empêcher le gouvernement de mener à bien cette contre-réforme des retraites, parce que nous sommes convaincus qu'elle va allonger la durée au travail et abaisser le niveau des pensions. C'est donc une grande régression sociale qui s'annonce et nous utilisons tout ce qui est en notre possession pour empêcher le gouvernement de mener à bien ce travail.
La députée La France Insoumise Clémentine Autain avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Il est midi 13.
Europe 1.
Une pause et dans un instant, le racisme dans les stades a franchi un cap ce week-end. A tout de suite. Il est midi 15, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag. C'est un nouvel exemple de racisme dans les stades de foot. Moussa Marega, attaquant de Porto, a décidé de quitter le terrain hier au Portugal.
Le racisme dans les stades, c'est malheureusement fréquent. Les autorités sportives font d'ailleurs tout pour éradiquer le fléau. Et hier soir, Cyril de la Morinerie, on a franchi un cap.
Oui, nous sommes à la 71e minute et l'attaquant de Porto, Moussa Marega, célèbre son but devant une tribune d'ultra de l'équipe adverse, le Vitória Guimarães. Et à ce moment précis, des cris de singe, des insultes à caractère raciste sont prononcées à son encontre. Moussa Marega, hors de lui, décide de quitter le terrain. Mais la réaction de sa propre équipe est pour le moins étonnante. Ses coéquipiers, son entraîneur Sergio Conceição, tente pendant plusieurs minutes de le retenir. L'arbitre qui a la possibilité d'interrompre le match, règle numéro 15 de l'UEFA, inflige au contraire à l'international malien un carton jaune pour avoir adressé des doigts d'honneur aux supporters fautifs. Moussa Marega a posté ensuite un message sur les réseaux sociaux aux supporters, à l'arbitre. Il lance « J'espère ne plus vous revoir sur un terrain de football. Vous êtes une honte. » Message aimé 650 000 fois. Le joueur originaire des Ulysses a reçu le soutien d'Anthony Martial, qui a vécu dans la même ville, et surtout du champion du monde Kylian Mbappé. Et cela alors que demain, dans le stade de Dortmund en Ligue des Champions, on entendra le traditionnel message de l'UEFA contre le racisme. Mais il y a encore du travail.
N'est-il raciste ?
Non au racisme.
N'est-il raciste ?
Merci. Cyril, de la Morinerie.
Il est midi 16, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag.
Direction les Maldives à présent, où une attaque terroriste visant des étrangers a fait 3 blessés il y a une dizaine de jours.
Les Maldives, ces lagons, ces plages de sable blanc qui font rêver. 45 000 Français y sont allés l'an dernier. Depuis cette attaque, 6 suspects ont été arrêtés. Guillaume Bier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. On est là-bas en pleine saison touristique. Alors certes, les vigilances sont renforcées, mais le mot d'ordre, c'est surtout ne pas effrayer les touristes.
Exactement, aucun dispositif de sécurité visible, pas d'hommes en armes, rien ne doit venir troubler la quiétude des vacanciers comme Mathias et sa compagne.
Dans les petites îles, c'est un peu des cocons protégés, donc voilà, pas d'inquiétude autour de ça, quoi. De toute façon, on est en sécurité, on n'est pas plus en sécurité dans les îles qu'à Paris ou qu'ailleurs, donc pour nous, ouais, pas d'inquiétude là-dessus. Ouais.
Alors ici, la question de la sécurité, c'est un sujet tabou dans la juteuse industrie hôtelière. Aucun des établissements ou des groupes que j'ai contactés n'a souhaité nous répondre. Mais j'ai tout de même rencontré Anna, une francophone qui travaille ici dans le tourisme.
Il n'y a aucune réaction de la part des hôteliers pour parer à d'éventuelles attaques futures. Je pense que honnêtement, les hôteliers espèrent, mais c'est une prise de risque monumentale. C'est un peu comme si on jouait à la roulette russe finalement. Qu'il ne se passe pas de drame ici aux Maldives. Tout le monde est prêt à courir des risques ici parce que c'est la poule aux œufs d'or. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de ruiner ou d'altérer la belle image de ce pays ?
C'est vrai que les autorités se veulent rassurantes, d'autant que le tourisme, c'est un tiers des revenus des Maldives. Mais elles reconnaissent qu'il y a un vrai problème de radicalisation ici. La police assure qu'elle surveille 1400 extrémistes éparpillés dans tout l'archipel. Alors certes, les enquêteurs que j'ai rencontrés sont convaincus d'avoir démantelé la cellule qui a mené l'attaque il y a quelques jours. Mais personne n'est à l'abri d'un nouveau passage à l'acte.
Guillaume Bier, spécial, envoyé spécial d'Europe 1 aux Maldives.
La France bouge, spécial municipal dès 13h avec pour thème la sécurité. Et ce sera le cas aussi dans votre grand journal du soir entre 18h et 20h avec Sébastien Krebs.
Oui, il sera en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, là où, souvenez-vous, un chapiteau de cirque avait été incendié, une ville sensible. Et à l'approche des municipales, les enjeux sont nombreux. Vous qui habitez ces quartiers sensibles partout en France, vous appelez le 3921. On vous donne la parole entre 18h et 20h.
Coup de projecteur en cette mi-journée sur un autre quartier sensible, celui du Mirail à Toulouse. Reportage de Benjamin Peter avec des électeurs indécis.
J'ai voté pour les présidentielles. Et...
Mais pas les municipales.
Non, pas les municipales. Non.
Kader n'a que 21 ans, mais ne se fait déjà plus aucune illusion sur la politique. Lui voudrait plus de mixité sociale dans son quartier, mais ne voit rien qui va dans ce sens.
Par exemple, là, avec l'afflux des migrants liés aux différents conflits, les migrants, là, on les a ramenés directement dans nos quartiers. Donc au final, ces promesses, elles ont servi à rien, puisque c'est un même cycle qui recommence, en fait. On essaye de faire avancer d'une autre manière. Par les projets, par l'initiative, ce qui va nous toucher directement, au final.
Ouais.
Que par ce qui peut venir de là-haut. On essaie de faire changer par en bas, du coup.
Comme lui, ils sont nombreux à exprimer leur désintérêt pour cette campagne. Grégory, lui, ira voter, mais voit bien que le changement arrive trop lentement.
On ne voit pas la politique publique ici. Là-bas, ils sont en train de faire un chantier de rénovation, réhabiliter les grandes tours de presque 17 étages. Ça prend trop de temps. Donc les gens se découragent et n'ont pas envie d'aller voter puisqu'ils se sentent abandonnés, tout simplement.
Malgré tout, sur les marchés, de nombreux militants sont là pour tracter car l'enjeu est important pour les candidats. Il y a 6 ans, c'est notamment le vote des quartiers populaires qui avait fait basculer la ville à droite. Au Mirail à Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Il est midi 20.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, les taux des crédits immobiliers sont toujours aussi bas. Mais attention, les conditions d'obtention ne sont plus les mêmes. A tout de suite.
Les ventes flash Renault, c'est maintenant.
Au sujet des ventes flash Renault, je n'ai qu'une chose à dire, tenez-vous prêts. Les ventes flash, voilà, c'est flash parce que ça ne dure pas. Et c'est flash parce que ce sont des affaires immanquables. Alors venez chez Renault et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. C'est parti.
Offre valable du 3 au 18 février dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir conditions sur Renault.fr.
Après Sully et American Sniper, Clint Eastwood raconte l'histoire d'un nouveau héros américain, le car Richard Jewell.
On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe. Il n'y a pas plus coupable que votre client.
Mon fils est un héros.
L'édifiante histoire vraie d'un héros devenu l'ennemi public numéro 1. Le car Richard Jewell, le film événement de Clint Eastwood, le 19 février au cinéma.
Avec Europe 1. Sur France 5, c'est l'histoire d'une ascension qui a surpris le monde. En 40 ans, la Chine a étendu sa toile. Mais le pays a d'autres ambitions. Immense. Devenir la première puissance mondiale. Ce scénario est-il déjà écrit ? Chine, OPA sur le monde, c'est dans l'air spécial. Un documentaire porté par Caroline Roux, demain à 20h50 sur France 5.
C'est le Leclerc Live.
Chaque Français consommerait 8 kilos de beurre par an.
Ah, il faut bien ça dans ma recette de 4 quarts.
Hein. Et quand est-ce qu'on y goûte ? Parce que chez Leclerc, du 18 au 29 février, pour l'achat d'un lot de beurre gastronomique doux président de 2 fois 250 grammes chacun, origine Union Européenne, vous bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le second lot acheté, soit 5,39€ le kilo.
Bah, je pars en cuisine.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Salut, moi c'est Gérard Molleton, et je suis un homme pressé, alors je fais les choses vite, mais attention, vite et bien. Exemple, pour l'entretien de ma voiture, je prends rendez-vous en ligne chez Citroën. C'est rapide, et ce qui est bien, c'est que chez Citroën, la révision est à partir de 99€ seulement, et qu'un an d'assistance est offert, donc merci Citroën. Voilà, sur ce je file, car j'ai encore plein de choses à faire, vite et bien.
Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën.
Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 29 février dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr.
Il est midi 20 de la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag.
Et si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier, attention, les conditions d'obtention d'un prêt se sont durcies depuis le début de l'année.
Et ce, face au très grand nombre de crédits accordés par les banques et au taux très très bas, le Haut Conseil de la Stabilité Financière a demandé fin 2019 aux banques de se ressaisir, c'est le terme, et c'est surtout chose faite, hein, Maud Descamps.
Et oui, depuis quelques semaines, si vous voulez contracter un emprunt immobilier, eh bien, il faut montrer patte blanche. Hein. Impossible quasiment d'obtenir un crédit sans avoir un apport qui couvre au minimum les frais de notaire. Conséquence, deux catégories de la population sont déjà impactées par ce durcissement des conditions d'obtention de prêts. Et c'est ce que nous explique Maëlle Bernier, porte-parole de MeilleurTaux.com.
Aujourd'hui, on a deux catégories qui sont déjà en train de souffrir. En premier lieu, les jeunes primo-accédants sans apport. Donc il va rester dans les jeunes primo-accédants ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent aider. Et à l'autre bout de la chaîne, les investisseurs locatifs, mais qui sont évidemment les plus modestes d'entre eux, parce que ceux qui ont déjà du patrimoine ou qui ont également de l'épargne disponible peuvent accéder à nous, toujours à cet investissement locatif.
Alors, autre conséquence, hein, les taux immobiliers, même s'ils restent quand même globalement stables, eh bien, il est devenu impossible d'obtenir un emprunt à moins de 1%, même avec un excellent dossier, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines.
Merci, Maud Descamps.
Attention, gros sujet là, hein, l'Eurovision arrive en mai.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Et depuis 1977, on essaye de la gagner, cette Eurovision. Amir, c'était bien classé il y a 3 ans. L'année dernière, il faut le dire, c'était un désastre.
Un désastre total. Alors cette année, Angèle Châtelier, sur qui repose le challenge de remporter cette Eurovision?
Eh bien, il s'appelle Tom Leb. Il n'est pas vraiment connu du grand public et pourtant, il a sorti un album de pop folk en solo en septembre dernier. Go ahead and fly away. I'll travel with my thoughts and get to you somehow. Avec cet album, il a fait quelques premières parties, celles de Sting ou de Tom Jones, plutôt prestigieux. Donc avant ça, il s'est essayé comme humoriste et même comme acteur. Il faut dire que l'homme est plutôt beau garçon, un moyen aussi de séduire les jurys de l'Eurovision. La chanson qu'il présentera s'appelle « Back in Me », une chanson d'amour. Ce n'est pas lui qui l'a écrite, mais notamment Amir, arrivé 6e à l'Eurovision en 2016, qui avait donc bien compris les codes pour être bien classé. J'irai au bout des sons. Faire voyager l'innocence. Tom Leb avait déjà été approché pour représenter la France. Cette année, pour lui, c'était la bonne.
Je me sens prêt. Je pense que j'ai assez d'expérience, entre guillemets, pour pouvoir me lancer dans une expérience pareille. Et puis, voilà, suite à la sortie de l'album, je pense que c'est bien aussi de sortir un petit peu de la composition, de la zone de confort un petit peu, et de prendre un risque. De faire de cette expérience un challenge, un dépassement de soi. Donc voilà pourquoi je me sens prêt d'y aller. You are the best in me.
Pour la chanson qui représentera la France à l'Eurovision qui aura lieu le 16 mai à Rotterdam.
Hein. Ouais, ça donne envie, surtout que Céline nous montre les photos du monsieur.
Il est méga canon.
Il est pas mal du tout. Mais oui, il faut le dire. Laisser, hein, parce que moi, oui, c'est ça, moins ma cam. Voilà. Allez, salut.
Merci Pierre, on vous retrouve à 13h pour un autre journal sur l'actualité.
Il est midi 26. Europe 1.